France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Smartphone au volant double le risque d'accident. Une étude scientifique vient le démontrer et le mesurer pour la première fois. Très utile à quelques jours des grands départs en vacances. On vous explique ça dans un instant. À suivre encore la chaleur un peu moins étouffante aujourd'hui, mais toujours forte dans l'est du pays. Encore 4 départements en vigilance rouge. La ville de Besançon recense 2 morts. Nous y serons et nous verrons qu'en Italie, 3 millions de salariés du dehors ont interdiction de travailler jusqu'à 16 heures. Le rapport sur les violences en milieu scolaire remis ce matin à l'Assemblée nationale. Enfin, souffle le porte-parole des victimes de Betarame, Alain Esquer.
Pour moi, c'est un aboutissement de 20 mois de combat pour faire éclater la vérité. Tout a dysfonctionné. L'urgence, en tout cas, c'est de trouver une loi transpartisane pour que les victimes soient vraiment reconnues.
Et que certaines infractions commises sur les mineurs soient imprescriptibles. Nous verrons ce qu'en dit le gouvernement. Un jeune homme de 18 ans, masculiniste, interpellé près de Saint-Étienne, soupçonné de préparer un attentat. Et puis l'Ukraine, qui va devoir se défendre avec moins de missiles américains. À partir de 13h30, nous parlons de vos vacances. À quel prix partez-vous? Le prix, désormais le critère de choix numéro 1 qui détermine la destination et l'hébergement. Venez nous raconter. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Éric Fotorino du 1 Hebdo écrit à son ami Boualem Sansal, définitivement condamné hier en Algérie. Juste avant 14h, c'est une chanson. Le comédien Laurent Sauvage demande Logical Song, Supertramp.
Moi, avant de rentrer sur scène, je fais pas d'échauffement. Je trouve ça épuisant d'aller s'étirer de ceci, de cela. C'est pas ma méthode, entre guillemets, mais par contre, je chante cette chanson dans ma loge tout le temps. C'est mon échauffement.
Au micro de Frédéric Pommier. Sans oublier notre instant fraîcheur, les sorties cinéma de ce mercredi avec Alexis Demeyer. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Vous connaissez forcément ce bruit. Des notifications viennent de tomber sur votre portable. C'est par exemple un message WhatsApp de votre cousin qui vous invite à déjeuner. Rien d'urgent, mais puisque vous ne pouvez pas résister, vous saisissez votre portable. Ça nous est tous arrivé, ou presque. Eh bien, si vous êtes au volant, ça peut avoir des conséquences graves. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Pour la première fois, une étude scientifique a évalué l'impact de ces notifications sur notre vigilance au volant. Résultat, cela double le risque d'accident.
Oui, cette étude a permis de capter et de mesurer l'attention de conducteurs sur 3600 km. Avec ce constat glaçant, ces simples petites notifications en apparence banales multiplient donc par 2 le risque d'accident. Un quart des accidents corporels sont aujourd'hui liés à de l'inattention. En suivant donc le regard de ces conducteurs, l'étude a ainsi permis de mesurer ce temps en apparence furtif où le conducteur ne regarde plus du tout la route pour jeter un simple regard sur une notification. Éric Lemaire est le vice-président d'Assurance Prévention.
Dans cette enquête, on voit que c'est 6 minutes par heure pendant lesquelles le conducteur ne regarde pas la route. Sur un Paris-Nice, ça fait une heure. On l'a vraiment mesuré. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que le conducteur, pour ouvrir une notification, la traiter, il lui faut 13 secondes. Et 13 secondes à 130 km/h, c'est 500 mètres sans regarder la route. Et c'est 176 mètres sans regarder la route en ville.
6 minutes par heure d'inattention, ouais, c'est inattention donc Jérôme, et le téléphone portable sont responsables de 400 décès chaque année. Les études cognitives démontrent que nous ne sommes pas capables de ne pas regarder ces notifications, souligne le sociologue Dominique Boulier, spécialiste du numérique.
Les notifications sont bien conçues pour solliciter votre cerveau et vous rendre quasiment dans l'impossibilité de les éviter. Et c'est un travail, ça s'appelle la captologie, c'est conçu pour cela. Et on pense précisément qu'on va être capable de gérer plusieurs activités à la fois. Et à partir de ce moment-là, cette croyance-là qu'on est en contrôle, elle est le principal risque de ces situations-là. Et donc, vous y allez quand même, vous prenez le temps de regarder, même subrepticement. Mais subrepticement, c'est déjà très vite 12 secondes, comme on l'a vu.
Les assureurs estiment donc qu'il faut tout simplement couper ses notifications au volant, ne jamais consulter son téléphone évidemment, y compris pour ce qui ressemble en apparence à un simple coup d'œil.
Voire même l'éteindre pendant la route, ça peut être un bon conseil. Merci Laurent Kramer. Restons sur les routes. Toujours des restrictions de circulation aujourd'hui en raison de pollution à l'ozone, aggravée par la chaleur. Cela vaut en Ile-de-France avec des vitesses abaissées, cela vaut aussi à Lyon. Ce qui nous amène donc à la vague de chaleur que vivent beaucoup de Français encore aujourd'hui, hein, même si l'on ne compte plus que 4 départements en vigilance rouge, l'Aube, Lyon, le Loiret et le Cher jusqu'à 22h. Le mois de juin 2025 restera comme le plus chaud enregistré depuis le début des relevés météo. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Ce sont les dernières heures de cette canicule.
Oui, ça y est, on a passé le pic, ça se rafraîchit tout doucement par l'ouest, surtout demain. Mais attention, les températures restent quand même élevées aujourd'hui. 32 degrés à Toulouse, 34 à Paris. Une poche de chaleur aussi dans l'est et il va continuer de faire très chaud sur le pourtour méditerranéen et dans la vallée du Rhône encore quelques jours. Le risque de cette fin de canicule, ce sont maintenant les orages, parfois violents. On l'a vu ce matin en Normandie. 77 départements sont placés en vigilance jaune. Uh-huh. Et puis l'autre menace, eh bien c'est la sécheresse. Déjà qu'il n'avait pas beaucoup plu au printemps, la canicule a accéléré l'assèchement des sols. L'été vient à peine de commencer et déjà 10 départements sont en alerte crise sécheresse. Les Pyrénées-Orientales et Atlantiques, la Gironde, le Lot et Garonne, l'Aude, la Dordogne. Et plus inhabituel, même les Ardennes, l'Indre et le Loiret sont concernés. Et vous le disiez presque, donc ce mois de juin est le deuxième mois le plus chaud après 2023.
Merci de m'avoir repris, Sandy Dauphin, ce mois de juin, le deuxième mois le plus chaud depuis le début des relevés météo. Vous nous parliez des risques incendies qui sont importants, Sandy, en cette journée. Dans le Var, un homme d'une vingtaine d'années a été placé en garde à vue hier, suspecté d'avoir allumé 5 départs de feu autour de Salernes. Dans le Gard, l'incendie qui s'est déclaré hier, commune de Roquemort, est désormais éteint. 35 hectares de végétation ont brûlé. Cet épisode de canicule aura-t-il des conséquences sanitaires à l'hôpital? On verra cela dans un instant. Ce qui est certain, c'est qu'il a déjà fait des victimes. Un ouvrier de 35 ans, lundi, à Besançon, en est mort. Arrêt cardio-respiratoire en rentrant d'un chantier. Il s'était plein plutôt dans la journée de la chaleur. Et puis toujours à Besançon, hier matin, un SDF d'une cinquantaine d'années a été découvert inanimé. La mairie parle d'un décès très certainement en lien avec la canicule. Sur place, Dimitri Imbert.
Le corps est celui d'un sans-abri inconnu à ce jour des services de police. D'après des témoins, un sac et une bouteille de bière se trouvaient juste à côté. Cet homme est en cours d'identification, mais il ne présentait aucune blessure apparente ni trace de coup, explique l'officier sur place, ce qu'a confirmé plus tard le parquet de Besançon. Témoin de la scène, Anaïs travaille comme serveuse à l'Iguane Café juste à côté, mais pour elle, il n'y a guère de doute.
On a vu déjà un monsieur allongé aux marches de l'église qui bougeait pas. Et on voit une voiture de police, SAMU qui arrive, la morgue. On a su que du coup le monsieur était décédé à cause de la chaleur, manque d'alimentation, manque d'eau.
C'est choquant ?
Choquant, oui. On a une terrasse avec des clients à côté, on voit ça. Les clients boivent leur café, puis un monsieur mort juste à côté, c'est un peu moyen quand même.
Pour vous, il n'y a pas de doute, c'est vraiment lié à la chaleur ce décès ?
Je pense, le monsieur est SDF, donc je pense qu'il y a un manque d'alimentation, le manque d'eau et la canicule qui a dû donner un bon coup aussi.
Une enquête a été ouverte, une autopsie aura lieu dans les prochains jours. D'après les associations, c'est au moins le deuxième décès d'un sans-abri depuis le début de l'année à Besançon, mais le premier de la période estivale, car à sa manière, l'été est plus dur que l'hiver quand il n'est pas meurtrier.
Reportage ici Besançon. Besançon, 35 degrés cet après-midi. Dans ces conditions, il faut adapter le travail en extérieur et tenir compte de nouvelles règles qui sont en vigueur depuis hier avec la publication d'un décret pour protéger les travailleurs les plus exposés. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Félix. Vous avez suivi ce matin la ministre du Travail qui s'est rendue sur un chantier de rénovation de toiture à Paris.
Oui, avec une entreprise bonne élève, hein, puisqu'il y a de l'eau en quantité, comme le veut le décret.
On est raccordé avec un réseau d'eau tout neuf qu'on a mis en place pour le chantier. Donc ils ont de l'eau fraîche, continue. Et ils ont des frigos sur le chantier en haut.
Oui. Et l'échafaudage est recouvert d'une bâche contre le soleil. Malgré ça, il fait trop chaud, alors Kevin, le chef de chantier, réduit les horaires.
Depuis lundi, on commence à 7h et on finit à midi. Il n'y a que demain, vu que j'ai vu les températures qui avaient baissé, on va reprendre les horaires normales. Et si c'est impossible de travailler, on s'arrêtera à 14h, 15h. Ça dépendra de la fatigue et de l'état qu'on est sur le chantier.
Et c'est donc le ressenti des ouvriers, que le chantier s'arrête, car le décret ne fixe pas de température à partir de laquelle il faut le suspendre. Mais la ministre Astrid Panosyan-Bouvet assume ce flou.
C'est une fausse bonne idée, c'est-à-dire que ça peut donner l'idée qu'il y a un permis d'aller jusqu'à, sachant que le ressenti est très différent en fonction de l'humidité, de la pression et des contextes.
Et un peu plus loin, Laurent Manzan a lui interrompu son chantier. Il salue le fait que depuis cette année, les fortes chaleurs soient enfin considérées comme des intempéries.
Ce qui nous permet de pouvoir arrêter le chantier en permettant de décaler le planning du chantier sans avoir le risque de pénalité de retard sur le chantier.
Pas de pénalité pour les entreprises en cas d'arrêt de chantier.
Vous l'avez compris, pour l'instant, l'arrêt de travaux reste au bon vouloir des patrons. La ministre promet une loi pour les rendre à terme obligatoires dans certaines conditions.
Merci Caroline Félix. La chaleur qui fait aussi souffrir le réseau électrique, même les réseaux souterrains. Conséquence, 8000 clients d'Enedis étaient ce matin privés d'électricité. Alors comment font nos voisins ? Nous étions hier en Allemagne pour parler de l'école. Aujourd'hui, direction l'Italie. 18 villes italiennes sont en alerte rouge aujourd'hui et quasiment toutes les régions ont pris des mesures radicales, Bruno Duvic. Arrêt de travail pour tous ceux qui bossent en extérieur entre midi et demi et 16h.
On estime à 3 millions le nombre de personnes à l'arrêt en ce moment. L'Italie a l'habitude de la chaleur, mais pas aussi diffuse. Lorenzo Bazzana, du principal syndicat agricole.
Les zones les plus problématiques sont celles du nord, parce qu'on n'y est pas habitué à gérer une telle chaleur à cette période de la saison.
De 12h30 à 16h, pause obligatoire, les entreprises doivent protéger, surveiller, informer leurs salariés. Un accord national doit être signé cet après-midi au ministère du Travail. En échange du respect ces mesures, le chômage technique sera déclenché pour payer les heures de travail non effectuées et assurer les entreprises contre les retards de livraison. Selon le journal La Repubblica, ce dispositif avait coûté 10 millions d'euros en 2023, 14 l'an dernier. On mesure les conséquences économiques du changement climatique. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase dans l'agriculture, par exemple.
La production que l'on peut envisager n'est plus la même qu'il y a quelques années. Ça devient difficile de faire des comparaisons avec une période où le changement climatique était moins évident. On se retrouve avec des récoltes inférieures de 30 à 50%. La comparaison n'a pas tellement de sens.
Il y a 10 jours, de premières négociations sur le travail en temps de canicule avaient échoué. Le soleil brûlant oblige les partenaires sociaux à se mettre d'accord.
Bruno Duvic, correspondant de France Inter à Rome. La Commission européenne va-t-elle céder aux pays qui veulent ralentir la baisse des émissions de gaz à effet de serre ? C'est le cas de l'Italie, mais c'est le cas aussi de la France. Ce matin, la Commission européenne propose de maintenir son objectif de réduction de 90% de ses émissions en 2040, mais elle dit aussi introduire des flexibilités, donc moins de contraintes pour les pays de l'Union. Les fortes chaleurs de ces derniers jours vont-elles se traduire par une affluence de patients aux urgences ? À Poitiers, les urgences se préparent. Jérémy Guénézan est le chef de service adjoint.
Pour l'instant, on est sur l'ordre de quelques admissions en plus au niveau des urgences, même si on avait déjà eu un petit pic d'activité la semaine dernière avec les pics de chaleur qui avaient pu y avoir une dizaine de jours. Mais là, surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des choses qui sont cumulatives. Donc, c'est-à-dire que la chaleur, elle est très importante depuis ce week-end et on s'attend à continuer à recevoir des patients, possiblement de plus en plus importants, jusqu'à la fin de la semaine ou autre. On a le typique coup de chaleur, c'est-à-dire que le patient ou la patiente fait une surchauffe. Elle arrive aux urgences, la température très élevée, nécessité d'être refroidie, d'être hydratée. Et puis, il y a les conséquences à un petit peu plus long terme, que sont la déshydratation. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle des troubles ioniques, des variations du sel que l'on a notamment dans le corps. Et puis, ça fait décompenser leur pathologie habituelle. Ça peut être le diabète, ça peut être l'insuffisance cardiaque, ça peut être les pathologies respiratoires. On se prépare pour les prochains jours. On a une cellule de crise avec l'hôpital. Bien sûr, il y a eu l'alerte rouge qui a été déclarée par la préfecture. Donc, on se prépare tous à faire face.
Le chef de service adjoint des urgences avec ici Poitou, 31 degrés cet après-midi à Poitiers. C'est nettement plus supportable qu'hier. Les prévisions météo complètes dans un peu plus de 15 minutes.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Rarement commission d'enquête parlementaire aura fait autant parler d'elle. La commission sur les violences en milieu scolaire, lancée après le scandale Betarame, elle remettait son rapport ce matin. 3 mois d'audition. Le texte dénonce des monstruosités, mais aussi, je cite, la défaillance de l'État. Il préconise également 50 mesures. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Marie, nous verrons avec vous dans quelques instants comment le gouvernement réagit. Ce rapport pointe aussi, je cite, le défaut d'action du Premier ministre François Bayrou. Mais avant cela, écoutons la réaction du lanceur d'alerte Alain Esquer, c'est le porte-parole du collectif des victimes de Betarame.
Pour moi, c'est un aboutissement, ce jour. De 20 mois de combat sur l'affaire Betarame pour faire éclater la vérité. Tout a dysfonctionné. L'urgence, en tout cas, c'est de trouver une loi transpartisane pour que les victimes soient vraiment reconnues. Et pour qu'elles soient réparées, il faut enfin statuer sur la question de l'imprescriptibilité des crimes sexuels envers les mineurs. Ça, c'est vraiment la chose fondamentale. Il faut faire ce saut qualitatif et il faut le faire vite parce qu'il y a urgence il faut expliquer à chacun que de toucher un enfant, ça aura des répercussions sur l'ensemble de la vie. J'ai fait ma part dans ce dossier, vous savez que je me suis beaucoup investi. Il est temps aujourd'hui que la nation se saisisse de ces problématiques et vienne dénoncer tous ces criminels parce qu'on ne touche pas à un enfant.
Alain Esquer au téléphone de William de Lesseux. Loi transpartisane, demande Alain Esquer. Est-ce qu'on en prend le chemin ? Marie Mollet, vous êtes à l'Élysée où se tenait ce matin le Conseil des ministres. Comment le gouvernement accueille-t-il ce rapport ?
Eh bien, les commentaires sont à minima sur la responsabilité personnelle de François Bayrou, son défaut d'action dénoncé dans le rapport. L'entourage du Premier ministre s'en défendait ce matin en quelques mots. C'est exactement le contraire, nous dit-on. Il a ordonné une inspection dès après, une plainte pour une gifle. Plus largement, le rapport pointe une défaillance de l'État. Là encore, pas de commentaire de la porte-parole du gouvernement Sophie Prima, qui ce matin évacuait la question à l'issue du Conseil des ministres.
Le Premier ministre a mis toutes les informations qu'il a délivré pendant que cette commission d'enquête sur son site. La commission a fait son rapport, dont acte. Maintenant, nous passons à autre chose.
On passe à autre chose, dit-elle, mais maintenant quelle suite ? Que va faire l'exécutif de ces 50 recommandations ? Pour l'instant, c'est flou. Ce matin, Sophie Prima a renvoyé à un travail parlementaire cet automne une mission d'information transpartisane évoquée dans le rapport pour plancher justement sur l'imprescriptibilité de certains crimes sur mineurs qui pourraient donner lieu à une proposition de loi. Et puis, en février, lors de son audition, François Bayrou avait promis la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes qui n'a toujours pas vu le jour. Y a-t-il une date ? Non.
On n'a pas de date, puisque ça fera partie de ces propositions. Il faut regarder comment on le finance, naturellement. C'est une proposition que le Premier ministre avait faite lui-même. Je pense qu'on essaiera de travailler sur cette hypothèse.
Et puis le ministère de l'Éducation nationale assurait ce matin qu'il allait se pencher sur ces recommandations. Elisabeth Borne a déjà dit qu'elle était favorable à un contrôle accru dans les établissements privés sous contrat.
Marie Mollet avec les moyens techniques de Laurent Macchetti. Il était le responsable dans le département du Pas-de-Calais de l'aide sociale à l'enfance. Cet homme de 39 ans a été condamné pour détention d'images pédopornographiques. Le département l'a démis hier de ses fonctions. Les masculinistes, c'est une mouvance qui a vu le jour il y a quelques années aux États-Unis. Des hommes, souvent jeunes, qui nourrissent une haine féroce pour les femmes, surtout les féministes, elles seraient responsables, selon eux, de leur célibat. Et bien, pour la première fois en France, le parquet antiterroriste est saisi d'un dossier en lien avec un jeune qui se revendique de ses idées. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Ce jeune homme projetait un attentat contre des lycéennes.
Un jeune homme de 18 ans en classe prépa ingénieur dans un lycée du centre-ville de Saint-Étienne. C'est au sein même de cet établissement qu'il a été interpellé vendredi avec dans son sac deux couteaux, dont une lame de 16 cm. De quoi faire dire aux enquêteurs que ce tout jeune adulte s'apprêtait à passer à l'acte de manière imminente quand son avocate voit surtout en lui un adolescent en souffrance, garçon perdu, happé par la consultation massive de vidéos masculinistes sur TikTok notamment. Le jeune homme mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes est placé en détention provisoire hier et par ailleurs l'auteur d'un manifeste, un long texte dans lequel il revendique notamment son appartenance à cette idéologie incel.
Qu'est-ce que cette mouvance incel ?
Alors tout est dans le nom, hein, ou presque, involuntary celibate, célibataire involontaire ou subi, puisque cette mouvance, née au début des années 2000, promeut une haine des femmes rendues responsables de leur célibat et donc de leur misère sexuelle. Une thématique abordée notamment pour ceux qui l'ont vu dans la récente série Netflix Adolescence, qui a mis en lumière l'imprégnation de cette idéologie chez les jeunes hommes, notamment les réseaux sociaux, TikTok, mais aussi certains forums internet ont fait exploser le nombre de contenus liés à cette mouvance idéologique, au nom de laquelle certaines tueries de masse ont déjà été commises en Californie en 2014. 6 personnes ont ainsi été tuées par un jeune homme qui avait laissé derrière lui un long manifeste là aussi.
Charlotte Piret, les accès à la prison de Villeneuve-les-Maguelones dans l'Hérault bloqués ce matin par des surveillants et leurs syndicats. Ils dénoncent la surpopulation. 180% de taux d'occupation selon eux. Dans le Tarn, les rassemblements anti-A69 prévus ce week-end sont interdits par le préfet qui craint des troubles à l'ordre public. Et de fait, les opposants au projet d'autoroute entre Toulouse et Castres n'ont pas renoncé. quand dans l'autre camp, certains partisans du projet, eux, n'hésitent pas à s'en prendre à ceux qui tentent de le stopper. C'est en tout cas ce que soupçonne la justice. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Trois personnes étaient placées en garde à vue. Quel est leur profil ?
Alors, l'un des trois suspects a retenu l'attention des enquêteurs gendarmes de la brigade territoriale autonome de Puy-Laurent, car il s'agit du fils d'un sous-traitant important du concessionnaire chargé de la construction de l'autoroute A69. Sous-traitant qui a œuvré avant l'arrêt du chantier à la destruction de plusieurs habitations le long du tracé. Si les suspects ont été identifiés aussi rapidement, c'est que la victime avait posé des caméras de chasse. Et sur les images, on reconnaît parfaitement les auteurs venus saccager une station d'irrigation à 4h du matin. Caméra installée car l'agriculteur avait fait l'objet d'une campagne d'affichage sauvage la semaine dernière pour dénoncer, vous l'avez dit, ces acteurs locaux qui soutiennent les opposants à l'autoroute. Alors, est-ce que les trois suspects sont les mêmes qui ont collé les affiches ? Pour l'instant, les éléments ne permettent pas de l'affirmer. Selon la procureure de Castres, le père du principal suspect est venu lui-même à la gendarmerie affirmant que son fils avait agi alcoolisé, une grosse bêtise, qu'il indemnisera l'agriculteur, mais que tout cela n'aurait rien à voir avec l'autoroute. Ce matin, son fils et ses deux amis ont été condamnés à 40 heures d'intérêt général.
Emmanuel Leclerc, avec Donald Trump, il y a, on le sait, ses déclarations. Et puis il y a la réalité. La nuit dernière, le président américain a assuré qu'Israël était prêt à un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza. Mais il faut être deux pour un tel accord et le Hamas n'a pas répondu. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. L'enjeu, c'est évidemment le sort des otages israéliens et des populations civiles palestiniennes de Gaza. Et vous nous dites que ce cessez-le-feu, nous n'y sommes pas encore.
Non. Le président américain a beau vociférer sur son réseau trousse social et écrire en lettres capitales comme une injonction le mot cessez-le-feu, eh bien pour le moment, les termes de la proposition américaine ont peu évolué le 30 mai dernier. Ce qu'on a appelé le plan Witkoff prévoyait peu ou prou les mêmes modalités, trêve de 60 jours, libération de 10 otages en échange de prisonniers palestiniens. Et comme hier, Israël avait accepté cette proposition après avoir unilatéralement rompu la trêve 6 semaines plus tôt, comme une impression de déjà-vu donc, avec toujours les mêmes blocages. Le Hamas exige le retrait des troupes israéliennes et la fin de la guerre. L'État hébreu ne veut plus voir l'organisation islamiste administrer Gaza.
Cela dit, Thibault, la pression militaire est de plus en plus forte sur le Hamas.
Ouais, Israël veut clairement faire plier le Hamas en utilisant la force. Les bombardements sont plus intenses ces derniers jours et les ordres d'évacuation sont incessants. 2 millions de Palestiniens survivent dans des conditions atroces sur seulement 20% du territoire. Et dans son message d'hier, Donald Trump a promis au Hamas que la situation serait pire si ses leaders n'acceptaient pas l'accord. L'unique levier de négociation, c'est donc la force et on ne voit toujours pas ce qui pourrait inciter l'organisation islamiste à libérer les 50 derniers otages.
Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem. Des armes américaines pour Israël, des armes américaines aussi pour l'Ukraine, mais en nombre moins important à l'avenir. Là encore, c'est le président américain qui l'annonce. Bonjour Eric Bigala.
Bonjour Jérôme.
Ce sont les armements anti-aériens américains qui permettent d'intercepter certains missiles russes qui vont manquer.
Oui, parce que pour parer les attaques aériennes par drone, par exemple, l'Ukraine dispose de nombre de systèmes d'armes différents, pas forcément américains. Mais ce sont les missiles pour batterie Patriot qui risquent surtout de faire défaut. Ceux qui peuvent intercepter des missiles russes les plus rapides, des missiles balistiques ou des missiles hypersoniques, comme le Kinjal par exemple. Aucun autre système d'armes ne semble en mesure d'égaler le Patriot en la matière. Alors l'Ukraine dispose d'une demi-douzaine de batteries Patriot et probablement encore d'un stock de missiles, au moins pour quelques mois. De toute façon, vu le prix de chaque missile pour batterie Patriot, autour $1 million pièce, l'Ukraine se les réserve justement pour contrer les attaques russes les plus puissantes ou les plus véloces. Or, les attaques aériennes russes se sont démultipliées. La dernière en date, dimanche dernier, a vu 477 drones d'attaque et 60 missiles tirés sur l'Ukraine. Et ces tactiques russes de saturation, à chaque fois plusieurs centaines d'engins lancés en même temps, risquent bien de vite mettre la défense aérienne ukrainienne à rude épreuve. Surtout que les Russes visent désormais les centres-villes, avec l'objectif probable de casser le moral, non plus des troupes ukrainiennes, mais de la population elle-même.
$1 million le missile. Merci Eric Bigala pour ces informations. L'Australie, elle, décide de ne pas ouvrir ses portes au rappeur américain Kanye West, promoteur du nazisme, en cause sa chanson publiée le 8 mai dernier à la gloire d'Adolf Hitler. Le morceau a été interdit par la plupart des grandes plateformes de streaming, mais il cumule déjà des millions de vues sur X, le réseau social d'Elon Musk. Le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Mais c'est déjà la dernière de la saison. Bonjour Alexis de Meyer.
Bonjour Jérôme.
Alors nous allons en profiter. En salle cette semaine, d'abord, l'accident de piano. C'est signé Quentin Dupieux.
Vous avez que ça à foutre de votre vie, sans déconner ?
C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas ?
Depuis le début des années 2000, c'est déjà c'est déjà la septième fois que Quentin Dupieux est à l'affiche, c'est pas mal, poursuivant inlassablement sa réflexion et sa dénonciation de la société du spectacle. Ici, c'est le monde des influenceurs qui en prend pour son grade. Une Adèle Exarchopoulos à contre-emploi incarne Magaloche, cette youtubeuse millionnaire spécialisée dans les vidéos d'automutilation qui part se mettre au vert à la montagne. Et comme à son habitude, Dupieux convoque un casting prestigieux avec cette fois-ci Sandrine Kiberlin, Karim Leclou et Jérôme Commandeur. Le résultat est caustique et même cynique, nous plongeant dans une ambiance glauque pas forcément très agréable. Mais cet accident de piano recèle plusieurs scènes rondement menées qui peuvent valoir à elles seules le détour.
Un autre film français à l'affiche aujourd'hui, c'est Rapace, un thriller avec Samy Bouajila et Jean-Pierre Darroussin.
Un journaliste et sa fille, qui est également sa stagiaire, mènent une enquête sur le meurtre d'une adolescente qui pourrait bien avoir des liens avec une autre affaire.
Détective, c'est le journal bidon là où tout est inventé.
Il y a beaucoup de monde qui pense ça, mais malheureusement tout est vrai.
C'est un très bon Samy Bouajila qui interprète le rôle principal de ce polar très sombre. Le metteur en scène Peter Dourounzis parvient à allier efficacité du scénario et finesse du propos en évoquant l'évolution des mentalités sur la question des violences faites aux femmes.
Direction les Canaries maintenant pour le bien nommé Islands.
Oui, toute l'intrigue se déroule dans un hôtel-club de Fuerteventura. Tom, un quadra anglais et alcoolique, dispense des cours particuliers de tennis aux touristes de passage et parmi eux, Anne, une riche Britannique venue se reposer avec son mari et son fils. Cette Anne va chambouler le quotidien de ce saisonnier déraciné.
I'm Tom. Dave, hi. You met my wife.
Yeah. We really need this holiday and we want everything to be perfect. You could take us.
C'est un film en deux parties que nous propose le réalisateur Jan Ole Gerster. La chronique sociale autour des employés d'hôtels et des riches touristes laisse la place à un thriller un brin moins convaincant, mais filmé avec une belle inspiration. Après entre autres After Sun, How to Have Sex et Hot Milk, Islands confirme une tendance du cinéma du nord de l'Europe depuis quelques années pour les histoires de vacanciers fréquentant les stations balnéaires ensoleillées. Et c'est un phénomène assez intéressant sociologiquement à observer.
Quoi d'autre à l'affiche ce mercredi, Alexis ?
L'Aventura, la formidable comédie familiale de Sophie Le Tourneur avec un Philippe Catherine en grande forme. Matérialiste, un thriller, un triangle amoureux new-yorkais mis en scène par la prometteuse Céline Song. Et Jurassic World Renaissance, le septième volet de la franchise créée par Spielberg. Mais attention, sortie mondiale oblige, ce blockbuster n'arrive en salle chez nous que vendredi.
Merci Alexis de Meyer, on va vous retrouver très régulièrement dans les prochaines semaines, mais il faudra attendre le mercredi fin août pour avoir...
29 août.
On verra précisément, mais enfin, ce sera fin août pour les prescriptions cinéma. Le 27, me dit Frédéric Pommier, qui a un calendrier dans la tête pour les prescriptions cinéma, chaque mercredi dans ce 13-14 d'Alexis de Meyer. 13h28 pour l'instant. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis, à partir de 13h30, est-ce que tu viens pour les vacances ? Eh bien, ça dépend avant tout du prix. C'est d'abord le prix qui décide le choix des Français en matière de vacances. Comment faire baisser la facture ? On en parle ensemble. 01 45 24 7000 pour vos questions et vos témoignages. Par exemple, si vous êtes en train de vous décider. 13h45, dernier moment avec nos chiens guides d'aveugles. Nous visitons la future école de Van Gogh que nous accompagnons depuis maintenant quelques jours. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Éric, écrire après la condamnation de Boualem Sansal.
Oui Jérôme, depuis Socrate en passant par Vassili Grossman, Alexandre Solzhenitsyn ou Salman Rushdie, les mots et ceux qui les écrivent font peur aux dictateurs, une histoire qui ressemble hélas à un éternel recommencement.
Et avec un Frédéric Pommier en sueur, un comédien.
En sueur ?
Ah oui !
En chaleur ?
Oui, c'est ça, on peut le dire.
Un grand comédien de théâtre. Il s'agit de Laurent Sauvage qui sera dans quelques jours au Festival d'Avignon dans le spectacle Album. Et avec lui, c'est un titre de Supertramp que nous écouterons. Le titre qu'il chante depuis des années pour s'échauffer avant de monter sur scène.
Supertramp, je trouve que ça vous va bien aussi aujourd'hui.
Supertramp.
Voilà. Super trempé. Merci à tous les deux.
Je vais me changer, je reviens.
Tout à l'heure.
Aujourd'hui, c'est la canicule. Si vous avez plus de 65 ans, vous êtes plus sensible aux effets de la chaleur.
Alors hydratez-vous régulièrement avec de l'eau et des aliments riches en eau. Mangez en quantité suffisante des plats frais et équilibrés. Restez au frais, mouillez-vous le corps et utilisez un ventilateur. Et en cas de signes inhabituels comme de la fièvre, des nausées ou des diarrhées, appelez immédiatement votre médecin ou le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Comment tu fais pour avoir l'air en pleine forme dès le matin comme ça ?
Ben je dors mieux. Avec mes volets roulants Velux, je ne suis plus embêté par la lumière extérieure et il fait tellement moins chaud dans ma chambre.
Sérieux ?
Mais oui, fonce ! Il s'installe en moins d'une heure et en ce moment, tu as une chance par jour de te le faire rembourser à 100%.
Cet été, échapper à la chaleur et gagner en confort avec les volets roulants Velux. Modalité complète sur velux.fr.
France Inter, partenaire de Otoniel, Cosmos ou les fantômes de l'amour, jusqu'au 4 janvier à Avignon. Pour la première fois, une ville remet les clés de tous ses musées et lieux emblématiques à un seul et même artiste. Dès cet été, Jean-Michel Otoniel crée un parcours poétique à Avignon avec 260 œuvres, la plupart inédites en France. Les sculptures monumentales ou intimistes, d'or, de verre ou de perles, fontaines et peintures de l'artiste magnifient l'exceptionnel patrimoine de la cité papale. Otoniel, Cosmos ou les fantômes de l'amour à Avignon, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin, grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Alors, la chaleur est étouffante aujourd'hui, mais sur l'Est et le Centre, et puis il y a des orages.
Exactement, la vigilance canicule, elle persiste sur 55 départements en orange, 4 en rouge, Cher, Loiret, Aube et Yonne. Les températures restent très élevées du nord-est vers le centre-val de Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Méditerranée, avec 35 à 39 degrés le plus souvent. À l'ouest, ça baisse progressivement. Alors, on attend encore 34 degrés à Paris, hein, 33 à Limoges, 32 à Toulouse, mais 25 à 29 près de l'océan et 21 à 26 près de la Manche. Côté ciel, ça se gâte avec des averses orageuses musclées et du vent du Poitou vers le Nord-Pas-de-Calais puis vers l'Île-de-France. Et attention, des orages aussi sur une bonne moitié est et sur les Pyrénées. Parfois violents, très pluvieux, avec de la grêle possible, de fortes rafales de vent. Hein, grande prudence cet après-midi et ce soir. Et puis demain, il restera un risque orageux sur le nord-est le matin, puis sur les massifs dans l'après-midi. Il fera moins chaud sur les régions du Nord, mais ça restera caniculaire sur un quart sud-est.
Élodie Calac, merci. Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Plutôt mer ou montagne ? Plutôt location meublée ou camping ? Voilà les questions que se posent les Français en préparant leurs vacances, mais la première question, et c'est désormais une constante, c'est combien ça va coûter. Pour la première fois depuis la crise sanitaire, le budget vacances des Français serait en baisse cette année, selon une étude réalisée par le comparateur de voyage Liligo. Même s'il faut bien le dire, certaines études se contredisent sur ce point. On va donc tenter d'y voir clair avec nos invités sur ce qui guide nos choix, et c'est avant tout le prix. Et puis peut-on encore faire de bonnes affaires quand on se décide tard ? Pour le dire clairement, si on n'a encore rien réservé alors que nous sommes le 2 juillet. 01 45 24 7000 pour venir partager votre expérience avec nous. Vous passez également via l'application Radio France pour vos questions et pour vos témoignages. Sandra Wabian est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Directrice générale du CREDOX, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Nous sommes également avec Nicolas Daillot. Bonjour.
Bonjour.
Président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, camping et mobilhome. Vous possédez deux campings en Bretagne, l'un dans le Finistère, Plonévé-Porzé, et l'autre dans le Morbihan. C'est à Séné. D'où cette question, Nicolas Daillot, peut-être liée aux réservations de dernière minute. Est-ce que la météo est un critère ? On a dit qu'il faisait plus frais en Bretagne en ce moment. Est-ce que vous avez davantage d'appels ces derniers jours ?
Ah, c'est très clair. En réalité, vous savez, il y a toujours un effet retardement dans le tourisme en général, dans les campings en particulier. L'année dernière était assez humide. Du coup, on était plutôt en retard dans l'ouest de la France sur les réservations au cours de ce printemps 2025. Et l'amélioration des conditions météo depuis les dernières semaines, et a fortiori avec la canicule des derniers jours, a eu deux effets. D'une part, ça a augmenté la fréquentation des campings en dernière minute, des gens qui sont venus du sud en camping-car, en tente, en location de mobil-home aussi.
Cette semaine.
Et puis ça a eu un effet. En archi dernière minute, finalement, ouais. Le jour pour le jour. Et puis, évidemment, ça a eu un effet booster pour louer les derniers stocks de l'été, notamment sur le mois de juillet, qui était un peu en retard encore, et qui, désormais, va se rapprocher d'un bon ton de remplissage.
Est-ce que les touristes oublient vite ? Autrement dit, est-ce qu'une année un peu plus humide, un peu moins chaude, suffit à vider un peu les réservations de l'année d'après ?
Alors oui et non. Oui, parce qu'il y a toujours que cet effet retardement que je vous évoquais. Ouais. C'est aussi vieux que le tourisme, en fait. Hein. Une belle année dans le sud ou une belle année dans le nord va avoir un effet immédiat sur la saison d'après. Par contre, à l'inverse, et a fortiori avec les prévisions météo qui sont quand même très fiables aujourd'hui, on voit bien que les touristes, et dans les campings en particulier, puisque vous savez qu'on a une grosse partie de la clientèle qui réserve, mais on a aussi ce qu'on appelle une partie importante de clientèle de passage, ouais, qui ne réserve pas et qui, au gré du vent, choisit sa région et sa destination. Et donc, en fonction de la météo, elle peut faire 300 km pour aller là où il faut aller.
Alors, venons-en au prix, Sandra Wabian, avec vous. C'est désormais vraiment le premier critère de choix.
Alors, oui, ça a toujours été, hein, d'ailleurs, le premier critère de choix. Si vous voulez, les pays où il y a beaucoup de taux de départ en vacances, c'est des pays riches. Quand vous regardez à l'intérieur des pays, les personnes les plus aisées partent plus en vacances que les plus modestes. Quand il y a une période de crise, on va réduire les budgets des vacances. Donc, vraiment, les vacances, c'est une variable d'ajustement économique quand on a des difficultés. Donc, le premier frein au non-départ en vacances, ce sont les questions financières.
Je lisais qu'il y avait quand même un changement là cette année depuis la crise sanitaire. Est-ce que vous me le confirmez ou bien est-ce que c'est difficile à dire? Parce que franchement, en regardant beaucoup d'études, c'est compliqué de se faire une idée.
Oui. Alors, en fait, cette année, on est plutôt sur une année positive en termes de départ en vacances. On a davantage de gens qui partent en vacances au Crédoc. On mesure 64% de la population qui est partie en vacances au cours des 12 derniers mois. Et c'est en augmentation de 4 points par rapport à l'année dernière. Et c'est une augmentation qu'on observe dans toutes les catégories sociales, et notamment chez les classes moyennes inférieures. Et puis, les réservations sont plutôt à la hausse. Par exemple, les réservations pour les locations de meublés de tourisme sont en augmentation de 16% pour la saison de juin à septembre. Donc voilà, il y a plusieurs indicateurs qui montrent qu'on va plutôt avoir plus de partants cette année. Après, plus de partants, ça ne veut pas forcément dire plus de budget.
Oui, voilà. Avec quel budget, justement?
Alors, en gros, on peut diviser les Français en trois populations. On a 40% à peu près qui ne partent pas en vacances, 60% qui partent, et à l'intérieur, en fait, il y a 40% qui vont partir à l'économie, c'est-à-dire chez de la famille, chez des amis, en voiture, en France. Et finalement, ceux qui vont vraiment avoir un gros budget vacances, c'est 20% de la population. Et donc, quand on fait des budgets moyens, c'est aussi pour ça que vous n'arrivez pas forcément à vous retrouver dans les données.
Je vous le confirme, il y a des écarts énormes.
On mélange un peu des choux et des carottes, quoi. Voilà. Donc, en gros, le budget vacances, c'est près de 5% du budget. Donc, on revient à peu près à un mois de revenus pour toute l'année. Donc après, ça va dépendre aussi de la configuration familiale, est-ce que vous avez des enfants ou pas, est-ce que vous partez seul, etc. Mais là, il est probable qu'on ait quand même une augmentation du budget vacances, notamment donc chez ceux qui partent souvent, parce que ce qu'on observe au Crédoc, c'est un phénomène qu'on appelle la funflation. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, un tiers des Français, qui déclarent que même s'ils font attention au quotidien sur toutes leurs dépenses, parce qu'on est dans une période quand même un petit peu anxiogène, hein, le taux d'épargne est assez élevé, eh bien, ils vont s'accorder des plaisirs et payer un festival qui sera un peu cher, un très bon restaurant, une expérience sportive pour en fait avoir des moments un peu exceptionnels pendant leurs vacances.
Je reviens à ceux qui ne partent pas en vacances. Vous me dites 40% de la population française. C'est
oui,
ça,
tout à fait.
Sandra Wabian.
Oui.
C'est un chiffre stable?
Alors oui, donc là il est un petit peu en diminution. Donc là c'est cette année c'est 36%.
D'accord.
Mais on est toujours à peu près dans ces eaux-là. Et c'est particulièrement les publics avec des bas revenus, les foyers monoparentaux, également les seniors, enfin les plus âgés en tout cas des seniors.
Parce que c'est trop cher, c'est clairement la raison.
Voilà, donc la première raison, c'est la raison financière. Et après, il y a d'autres raisons qui peuvent intervenir. Alors, il y a quand même 30% des gens qui nous disent qu'ils n'ont pas forcément envie de partir en vacances. Finalement, il y a aussi un peu une injonction touristique au départ en vacances. Et puis après, il y a les questions de santé. Voilà, si votre état de santé le permet pas. Les questions aussi professionnelles, hein, si vous êtes indépendant, si vous êtes jeune et que vous avez besoin de faire un stage l'été, etc. Donc, et puis, les questions sécuritaires aussi qui peuvent intervenir.
Nicolas Daillot, vous êtes le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Est-ce que vous voyez dans le comportement de ceux qui viennent, par exemple, dans vos campings, que le budget se restreint? Par exemple, j'étais en mobil-home l'année dernière. Cette année, je vais peut-être privilégier la tente.
C'est tout à fait ça. Nous qui avons une proportion très importante de clientèle modeste, à budget contraint, on le voit bien dans les arbitrages, ils veulent partir en vacances et c'est vrai qu'on constate ce que disait madame tout de suite, c'est-à-dire que le volume est plutôt pas mal. On est à l'échelle nationale à plus de 2% de nuitées en réservation aujourd'hui, donc c'est mieux que l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il y a des arbitrages. Il y a ce que vous dites, ils passent d'un hébergement à louer sur place à un emplacement nu quand on vient avec sa tente ou sa caravane. On achète une tente à 40 euros dans un supermarché de sport et on peut partir à pas cher. Mais il y a également à l'intérieur des différents types, vous louez un mobilhome 3 chambres de salle de bain d'habitude, bah là vous allez louer qu'un 2 chambres avec la banquette du salon convertible. Et puis l'hébergement en camping a aussi l'avantage de pouvoir faire la cuisine dans l'hébergement, quel que soit le type d'hébergement, que ce soit une caravane, une tente ou un mobilhome. Ça permet d'économiser les dépenses de restaurant, que ce soit un restaurant extérieur au camping ou dans le camping, mais on l'a vu déjà l'année dernière et ça va sans doute être le cas cette année, les dépenses annexes dans les campings, donc tous les à côté, les petits extras, ont tendance à se contracter. Par contre, on maintient le volume global de clientèle.
Tout est compris chez vous ? Dans le prix,
c'est la force du camping, exactement, chez moi comme ailleurs, c'est la force, à quelques exceptions près, notamment le snack et le restaurant, mais sinon les animations, l'espace aquatique, les toboggans, le club enfant, l'air de jeu, tout ça c'est compris dans le prix, ce qui permet encore une fois d'avoir une bonne visibilité sur son budget.
Est-ce que vos tarifs ont augmenté par rapport à l'année dernière ?
Non, très peu. On a tendance depuis, c'est ce qu'on observe d'ailleurs.
Très peu, ça veut dire combien ?
L'inflation, comme il y a peu d'inflation cette année, donc au final ça a augmenté d'un pour cent et quelques, 1%, 2% en général.
C'est combien à peu près une semaine en bungalow chez vous ? Par exemple à Séné, Golfe du Morbihan.
Oui, ça dépend de la période. Si vous êtes début juillet, vous allez être...
La semaine prochaine 500... par exemple.
La semaine prochaine, en fonction du type, vous allez être entre 500, même un peu moins, oui, 400 et 700 euros selon la taille de l'hébergement.
Entre 400 et 700 euros. Est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent en disant « Écoutez, j'ai vu ces 400 euros, je suis un peu serré, est-ce que vous pourriez me la faire à 350 » Est-ce que ça arrive ?
Alors, ça peut arriver. Après, ça va dépendre de l'offre et de la demande. S'il vous reste des stocks, eh bien, on fait des promotions, comme dans tous les secteurs d'activité, évidemment. Si par contre, on sent que le taux de remplissage est bon, en général, on tient les prix. On pratique, comme dans d'autres métiers, le yield management, c'est-à-dire l'évolution des prix en fonction de l'offre et de la demande.
Ah oui, il y a le tarif selon les demandes. Ça existe déjà chez vous ?
Oui, oui, tout à fait.
Mais ça se fait automatiquement, c'est votre logiciel qui fait ça ? Comment ça marche ?
Alors, il y a à la fois une petite dose d'automaticité, mais aussi une dose de gestion humaine. En réalité, on pratique depuis quelques années dans les campings, et moi je le pratique comme la plupart de mes confrères, on pratique ce qu'on appelle le revenu management, c'est-à-dire qu'on a une science des prix, un peu, que les hôtels le font depuis bien plus longtemps que nous, en fonction des événements qu'on peut avoir dans les environs, et en fonction de la tension sur la demande, eh bien on fait évoluer les prix d'une semaine à l'autre.
Bon, si vous avez le Tour de France qui passe près de chez vous, par exemple, il est possible que les tarifs augmentent, c'est ça que ça veut dire ?
Alors, on les a prévus dans les tarifs.
Vous l'avez prévu parce que vous avez les dates à l'avance. Mais est-ce que vous pouvez, au dernier moment, il y a moins d'affluence et donc votre logiciel fait évoluer les prix ou il y en a plus et il décide de l'augmenter ?
Alors, exactement. Alors, sachant que ça se fait surtout pour les locations, les mobilhomes et les chalets, ça se fait très peu pour les emplacements tentes, caravanes. Mais pour les locations, effectivement, en fonction du remplissage, les campings peuvent corriger les prix.
Cette attention au prix, elle touche aujourd'hui toutes les clientèles, Nicolas Daillot ?
Surtout les clientèles populaires. Dans les campings, on a 70% de Français, 30% d'étrangers. Les étrangers sont des Européens de proximité qui ont plutôt des pouvoirs d'achat plus élevés et qui louent d'ailleurs beaucoup d'emplacements tentes, caravanes. Ils louent assez peu de mobilhomes et de chalets, beaucoup moins que les Français. Les Français font plutôt de la location. Et sur les Français, justement, qui est le cœur de notre clientèle, notamment les Français populaires, parce qu'on est le mode d'hébergement touristique qui a la plus grosse proportion de Français à budget contraint, on voit bien qu'ils regardent les prix pour toutes les raisons qu'on évoque et ce qui nous oblige d'avoir une attention particulière sur l'évolution des tarifs.
Est-ce qu'on sait, Nicolas Daillot, quelles sont les destinations privilégiées par les clientèles les plus populaires ou celles qui sont aidées ?
Oui, c'est très clair. En pratique, les Français des classes moyennes, des classes populaires, privilégient de très loin le littoral, beaucoup plus que l'intérieur. Les Français des grandes métropoles avec des niveaux d'éducation plus élevés ont tendance plutôt à choisir des territoires verts de l'intérieur, la vallée de la Loire, l'Ardèche, la Dordogne, etc. Et les Français qui ont des coups de pouce pour partir en vacances, notamment il y a 500 000 Français, vous savez, qui bénéficient d'une aide de la CAF pour partir en vacances.
On sait où ils vont ?
Oui, les trois premiers départements, c'est dans l'ordre la Vendée, la Charente-Maritime et l'Hérault. Donc vous aurez noté trois départements littoraux.
On sait pourquoi ?
Oui, tout à fait. Ben, quand on prend très peu de vacances, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on prend très peu de vacances, parmi les 20 millions de Français qui n'en prennent pas ou très rarement, eh bien, on veut voir la mer, parce que la mer, c'est vraiment le rêve des vacances, c'est le dépaysement, c'est l'attirance naturelle. Mais je complète en disant que les profils de camping sont aussi particuliers. On veut des établissements plutôt en général très équipés, avec des toboggans, des piscines, des aires de jeu, des animations, alors que des clientèles qui sont plus en recherche d'écotourisme, de découverte des territoires verts de l'intérieur, vont choisir des campings plus petits, moins dense et moins équipé.
Et peut-être moins cher.
Et alors, pas forcément moins cher, mais c'est pas la même expérience de vacances.
La dernière minute, Sandra Wabian, est-ce que c'est une part importante du marché ? Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui se décident, par exemple, maintenant, pour partir la semaine prochaine ou dans deux semaines ?
Alors oui, c'est 40% des Français qui prennent leurs vacances à la dernière minute, et plus particulièrement, en fait, les jeunes.
40% ?
40% qui choisissent à la dernière minute, oui, tout à fait.
Et dernière minute, c'est quoi ? C'est alors, là, après, on est mercredi, arriver, c'est pour cas, samedi cas, qu'est-ce qu'on appelle ?
Non, peut-être pas, mais on va dire qu'il y a 60% qui vont réserver dès le début de l'année pour être sûr d'avoir leur logement, etc. Et puis après, bah, les derniers mois, quoi, les dernières semaines, c'est pas forcément du last minute le dernier jour. Hein. Mais effectivement, c'est un comportement qui existe, à la fois parce qu'il y a dans les critères de choix aussi, on en a parlé, la météo, et donc on attend un petit peu de savoir ce que sera l'été. Les questions aussi parfois professionnelles hein, qui peuvent jouer, et puis l'idée qu'on peut avoir peut-être des meilleurs prix aussi
en dernière minute.
En attendant la dernière minute.
Merci à tous les deux de nous avoir éclairés aujourd'hui. Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, que l'on retrouve à Plonévé-Porzay et donc à Séné. Merci également à Sandra Wabian, directrice générale du Crédoc. 13h45 sur Inter. Le dernier épisode de notre feuilleton, exceptionnellement un mercredi. Nous avons passé ces derniers jours avec une famille d'accueil d'un futur chien guide d'aveugle. C'est Van Gogh, et aujourd'hui notre jeune labrador, qui terminera sa formation dans quelques mois, est à l'école de chien guide d'aveugle. Nous l'y suivons avec sa maîtresse Sarah et sa monitrice Coralie.
Donc là je te laisse faire. Par contre, quand tu veux travailler ta marche en laisse, voilà, tu vois, moi ce que je veux c'est ça. Et n'hésite pas, tu vois, essaye d'anticiper quand tu sens qu'il va prendre de la vitesse, à faire soit un petit pouic.
C'est bien ce pouic.
Ou alors même lui donner tel boudin, le truc. Ouais, ça c'est super, très bien bonhomme. Je te le rends. Donc je m'appelle Coralie Métayer et je suis monitrice au pôle famille d'accueil des chiens guides de Paris. Aujourd'hui, du coup, avec Van Gogh, on va faire un trajet pour valider un petit peu tous ses acquis, tous ses apprentissages. La mission principale, c'est que Van Gogh, il soit bien dans ses pattes.
Super, ça, c'est super. Très bien, Dodo.
Là, tu vois, moi, je bloquerai. Ta laisse, elle est tendue. Ouais. En fait, dès que ta laisse, elle tend et que tu as une petite pression, hop, là, tu vois, bam. Ouais, très bien. Ok, on repart. Pas que toi tu seras en train de courir derrière non plus, faut qu'il s'adapte.
Je marche beaucoup plus vite qu'il y a deux mois, ça c'est... Non, pour de vrai, en course à pied j'ai gagné 1 km par heure, c'est incroyable. Je me dis dans 9 mois je fais championnat de France. Quoi.
Si on n'avait pas de famille d'accueil, on n'aurait pas de chien guide. Ils ont le premier rôle, donc qui n'est pas évident, parce que je leur tire leur chapeau, et heureusement qu'ils sont là. Donne le banc poli. Hop, allez, c'est bon. Voilà. Assis. Bonjour, je m'appelle Doriane, je suis déficiente visuelle et je suis accompagnée de Polly, ma chienne guide, depuis avril 21. Polly, c'est ma deuxième chienne guide. La première chienne guide, c'était Phoenix, un flat coat retriever que j'ai eu la chance d'avoir en 2012. Je dis un chien guide, c'est la meilleure thérapie que j'ai eue dans ma vie. Une deuxième vie à 100 à l'heure. J'ai retrouvé la vue grâce à mes chiens guides. Et je fais des milliers de choses. J'ai plus peur de rien. Je prends ma chienne, je vais partout. J'ai eu 3 naissances dans ma vie. Ma naissance, la naissance avec Phoenix et la naissance avec Polly. Et je peux vous dire une chose, si on me propose une opération pour retrouver la vue, je ne veux pas. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Ils font partie de nous. Je veux toujours avoir un chien. Ah, mais ça se trouve, elle va aller voir les copines, hein. Elle est devant. Allez,
voilà. Je suis Honorine Moreno, je suis la directrice générale de l'école de chiens guides de Paris.
Aujourd'hui, il y a au niveau national 1% seulement des personnes aveugles ou malvoyantes qui bénéficient d'un chien guide. À l'école de chien guide de Paris, nous remettons gratuitement une trentaine de chiens guides chaque année. Actuellement, ici, on a environ 70 chiens qui sont placés en famille d'accueil. Donc, il y a un taux de réussite d'environ 50%. La formation du chien guide est évaluée à environ 25 000 euros et nous vivons principalement de la générosité du public.
Regarde, Van Gogh, c'est tes futurs collègues. C'est tes futurs copains de Gogh. Regarde, ils savent déjà faire plein de choses que tu vas apprendre à faire.
C'est vrai qu'on appréhende un peu le moment où on va devoir s'en séparer. Donc là, ça fait 2 mois qu'il est avec nous. On sait qu'on a encore 8 mois dans cette aventure. Mais quand cette période va se terminer, lui, il a une autre vie qui l'attend, très riche. Et on sait que ce sera un super chien. Et ça, c'est une fierté pour nous.
Merci à Simon Le Baron pour ce feuilleton. Les 5 épisodes, comme tous ceux de cette saison 2024-2025 du 13-14, sont à retrouver sur le site de Radio France. Ça s'appelle Une semaine dans leur vie.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mercredi à 13h50, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Vous nous parlez évidemment aujourd'hui, Éric, de Boislem-Sansal.
Oui, Jérôme, j'aurais pu, pour cet au revoir de juillet, vous parler d'Ovide, que l'empereur Auguste fit jadis exiler sur les bords de la mer Noire pour ses poésies libertines. Ou évoquer Socrate, qui paya sa liberté de penser d'une condamnation à boire la ciguë. Bien plus près de nous, j'aurais bien sûr pu vous rappeler la fatwa contre Salman Rushdie, lancée en 1988 contre ses versets sataniques. Fatwa qui refit surface en 2022 à New York, quand il fut poignardé par un fanatique. Combien d'écrivains à travers le monde sont poursuivis, comme Arundhati Roy en Inde, qui soutient la cause du Cachemire, emprisonnés comme l'autrice turque Asli Erdogan, qui a pris la défense des Kurdes. Ils sont nombreux ceux que des régimes autoritaires privent de leur liberté d'écrire et de penser au nom d'une raison d'État arbitraire. Mais en choisissant de vous reparler de Boislem-Sansal, dont la peine de 5 ans de prison a été confirmée hier par un tribunal algérien, je pense à tous ces écrivains qui font une arme de leur plume et mettent au péril de leur vie leur peau au bout de leurs idées.
Que représente pour vous Boislem-Sansal ?
Au-delà de l'amitié, je le tiens pour l'homme le plus libre d'Algérie, je le tiens pour l'honneur de l'Algérie. Jusque peu avant son arrestation en novembre dernier, il avait choisi de ne pas s'exiler, de combattre chez lui, dans son pays, par ses livres et par sa parole, affirmant que sa place n'était pas d'être un causeur à Paris, mais un homme maître de sa pensée en Algérie. Je l'ai dit le 18 février dernier à l'Institut du Monde Arabe, où nous étions réunis autour de Jack Lang et d'Antoine Gallimard pour demander la libération de Boislem-Sansal. Je le redis à ce micro. Je connais l'auteur Boislem-Sansal. Je connais son innocence. Et ce mot, aujourd'hui, Jérôme, pèse 228 jours de trop dans la balance de l'injustice. Mais je ne connais pas la différence du président algérien Tebboune, Boislem l'imposteur, Boislem l'usurpateur, Boislem le provocateur. À cet instant, j'aimerais voir le visage de chaque auditrice, de chaque auditeur qui m'écoute. J'aimerais voir leur visage comme autant de pages blanches. J'y lirai, j'y écrirai le nom de Boislem-Sansal et le mot « liberté » comme une injonction. Libérer Boislem-Sansal.
Éric, ce sont des mots, ils sont forts, mais ce sont des mots. Que peuvent-ils face à un État qui, lui, ne veut pas entendre ?
Oui, il faut parler. N'oubliez pas, Jérôme, l'avertissement de François Mauriac. Ce qu'on nous reprochera un jour, à nous les médias, ce ne sera pas d'avoir parlé. Ce sera nos crimes de silence, il parlait de la torture au Maroc, puis en Algérie. Et souvenez-vous de l'histoire insensée du chef-d'œuvre de Vassili Grossman, Vie et Destin, qui, en 1960, dénonçait le stalinisme. Les policiers vinrent chez Grossman, non pour l'arrêter lui, mais pour arrêter son livre et le détruire. Ils saisirent le manuscrit, arrachèrent même les rubans encreurs de sa machine à écrire, comme s'il avait pu reconstituer son texte sur ses filaments dérisoires. Seul l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn connut le même sort. Mais Grossman avait caché 2 copies de son texte, qui 20 ans plus tard parut en Occident. Cette histoire dit combien la dictature se méfie des écrivains. Depuis sa prison algérienne, je sais que même diminué, même privé de liberté, Boislem-Sansal croit toujours à la force des mots. Parce qu'un texte n'a jamais fini de produire ses effets dans les têtes. Parce qu'un roman est toujours incontrôlable.
Merci Éric Fotorino pour ce texte, pour Boualem Sansal, pour cet appel. Et merci d'être avec nous encore à la rentrée pour une troisième saison.
Avec joie, Jérôme, merci.
Dans ce 13-14, c'est chaque mercredi un immense plaisir. Deux, c'est la France. Ah, c'est une chanson avec vous, Frédéric Pommier. Votre invité aujourd'hui est comédien. Il s'appelle Laurent Sauvage.
Vous pourrez le voir au Festival d'Avignon dans le spectacle Album. Un seul en scène écrit pour lui par l'autrice Lola Molina, dans lequel il incarne un chanteur remontant sur scène pour livrer sa vision punk et désabusée du monde comme de l'industrie musicale. Et c'est un tube des Anglais de Supertramp qu'il a souhaité que l'on écoute. The Logical Song, un titre qui a marqué son adolescence.
J'ai 14 ans à peu près, les années collège, en plein dans mon adolescence pas simple. Avec toutes les questions qu'on se pose et tout ça, et puis j'écoute un tas de rock, plein de chansons en anglais dont je comprends rien. Et j'entends Supertramp et j'entends cette chanson, The Logical Song. Et il y a des mots qui sont pratiquement français, donc j'ai l'impression que inconsciemment j'accroche à cette chanson et je me pose des questions parce que je pige quelques mots comme logique, responsable, qui sont presque du franglais, mais c'est vraiment de l'anglais, voilà.
Qu'est-ce qui était particulièrement difficile dans votre adolescence ?
L'école particulièrement, on va le dire franchement, bon je suis pas le seul, mais c'était pas simple l'école. J'avais pas envie d'y être, l'autorité, l'école.
Le collège, vous n'avez pas aimé ?
J'ai pas aimé. En tout cas, le souvenir très précis quand j'ai écouté cette chanson, c'est que je me souviens avoir acheté le disque avec cette magnifique pochette un mercredi après-midi et le lendemain matin, mais ça j'y ai repensé un peu plus tard, c'est que je ne suis pas allé à l'école, j'ai fait l'école buissonnière, je suis parti à 8h de chez moi et je suis allé à pied à mon collège qui était à 7 km et j'ai longé un canal en chantonnant cette chanson.
Et c'est cette chanson qui vous a donné envie de faire l'école buissonnière ?
En tout cas, ce matin-là, oui. J'ai pris 2 heures de liberté, et puis avec cette chanson en tête, j'étais bien. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily. Oh joyfully, oh playfully, watching me.
C'est en 1979 qu'est sortie cette chanson, Frédéric, sur le 6e album studio de Supertramp.
Et elle n'a pas cessé d'accompagner Laurent Sauvage depuis cette journée où, cette chanson dans la tête, il a donc séché le collège.
Je suis parti en internat 2-3 ans après et j'avais toujours cette chanson en tête. J'avais à peu près tout oublié des chansons que j'avais écoutées à 13-14 ans puisqu'on passe à d'autres choses, etc. Mais cette chanson, elle est restée. Et puis après, j'ai retrouvé la chanson dans un rôle, dans une pièce de Wajdi Mouahad qui s'appelait Incendie, qui se passait en temps de guerre, on va dire en partie. Et on m'avait distribué le rôle d'un bourreau sniper, personnage très sympa, et qui, avant de tuer les gens, chantait cette chanson à chaque fois. When I was young, it seems that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. Boum. Il tuait quelqu'un, et puis après il chantait une autre strophe et tout ça. Et c'était pas une coquetterie du metteur en scène, c'était vraiment l'auteur qui avait écrit, réécrit les paroles, et c'est un de mes plus beaux souvenirs au théâtre, évidemment. Puis c'est la chanson qui m'accompagne encore aujourd'hui. Moi, avant de rentrer sur scène, je fais pas d'échauffement, je trouve ça épuisant d'aller s'étirer de ceci, de cela. C'est pas ma méthode, entre guillemets, mais par contre, avant de monter sur scène, je chante cette chanson dans ma loge, tout le temps, c'est mon échauffement. Voilà, et je me sens bien.
Cette chanson, elle permet de vous concentrer, de vous retrouver, de vous rassembler ?
Exactement, exactement. Et comme ça, j'ai pas besoin de me dire, tiens, c'était quoi ma joie, mon trauma, mon truc pour ce personnage ou quoi, les choses arrivent, quoi, tout simplement. Je sais pas, il y a un retour à l'enfance, il y a un retour à l'intériorité, il y a une chose qui se déclenche, émotionnelle et tout ça. Et cette chanson, je trouve qu'elle parle un petit peu de tout ça, voilà.
Est-ce que vous diriez que cette chanson, c'est l'une des chansons de votre vie ?
Ouais. Il y en a d'autres, mais disons que c'est la plus présente, et souvent je trouve que les chansons, d'une certaine façon, s'usent, vieillissent. En soi, on passe à autre chose, mais pas celle-là. Non, clairement.
De Logical Song. C'était donc Frédéric, le choix du comédien Laurent Sauvage.
Laurent Sauvage, que vous pourrez retrouver au Festival d'Avignon dans le spectacle Album du 14 au 22 juillet, théâtre de la Manufacture.
Merci Frédéric, et à demain, vous serez là aussi.
Mais je serai là demain.
Fin août, mais on peut encore profiter de cette chanson.
Après-demain même.
Demain et même après-demain en apothéose.